Cette semaine, j'ai rencontré un artiste de Montrouge qui propose le projet de décoration éphémère d'un mur. On appelle ça le street art, c'est-à-dire l'art de rue. Il aimerait bien impliquer les acteurs religieux, c'est pour ça que je suis allée le rencontrer, et les faire dialoguer sur différents thèmes. Et ensuite, différents artistes, inspirés par ce dialogue, peindraient dans un grand cadre, et ça se passerait sur le mur qui se situe à côté de l'église catholique sur la place de la mairie, à Montrouge. Il voudrait montrer une autre facette du religieux souvent décrié. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce projet décrit sur le site Le Mur de Montrouge. Cet homme se dit non-croyant, mais il est très intéressé par ce qu'il appelle les mythologies contemporaines. Il est ouvert à toutes les spiritualités et à ce que toute la société propose. Il constate que, comme lui, les jeunes de sa génération sont très friands de fiction qu'ils regardent soit à la télé, soit par d'autres canaux. Et ils trouvent dans les fictions une quantité de symboles qui donnent du sens et peuvent impacter la vie des gens, dit-il. Dans notre discussion, il m'a clairement dit que pour lui, la Bible est une fiction de plus comme une autre. Et il m'a fait remarquer que pour la première fois de l'histoire, Il y a maintenant dans la population française une majorité de gens qui se disent non-croyants. Les fictions, je ne les connais pas et je me suis dit en l'écoutant parler que je ratais sans doute quelque chose parce que cela pourrait m'aider à comprendre le monde d'aujourd'hui. Est-ce que les jeunes recherchent une nouvelle morale qui leur manque et qui est peut-être insufflée dans ces histoires ? Ont-ils besoin d'un cadre que plus personne n'ose mettre ? Alors je vous raconte tout cela parce que j'y ai trouvé une grande résonance avec notre texte d'aujourd'hui. La recherche de spiritualité a toujours existé. Et j'estime finalement avoir de la chance de pouvoir lire un livre vieux de 2000 ans et plus et qui est encore pertinent aujourd'hui. La Bible nous donne des clés de lecture pour nos vies. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire ? Eh bien, l'apôtre Paul, il marche dans la ville d'Athènes, il découvre plein de statues et plein de temples dédiés à de multiples dieux. Il voit le foisonnement du religieux. Et nous, dans notre société occidentale, nous constatons le rejet des religions traditionnelles. Mais le besoin de chercher une force qui nous dépasse est très ancré dans les générations d'aujourd'hui. Alors on va dans toutes les directions pour combler le vide. Les religions ne remplissent plus leur rôle de donner un cadre. La morale d'autrefois n'est plus crédible aujourd'hui. Et il est vrai que malheureusement la religion chrétienne a souvent perverti le message de Jésus dans l'histoire. L'ouverture apportée par Jésus a été vite refermée. Et la religion chrétienne donne et a donné et donne encore malheureusement l'image de vouloir garder du pouvoir sur les gens. Et ça, cela fait fuir. L'apôtre Paul discute avec les philosophes. Alors pour ceux qui ont fait de la philosophie à l'école, ça rappelle des vieux souvenirs. Mais je vais quand même vous reparler des épicuriens et des stoïciens. Donc les épicuriens sont partisans d'une morale visant à éviter la douleur dans un monde qu'ils considèrent comme gouverné par le hasard. Et les stoïciens, eh bien pour eux, la sagesse consiste à connaître les lois qui gouvernent l'univers et à pratiquer une morale basée sur l'effort. Paul est à Athènes, c'est-à-dire le centre culturel brillant du monde grec. Le lieu où l'on se montre, où on est à l'affût des dernières nouveautés qu'on pourra partager au dîner. Et quand Paul essaye de parler de Jésus-Christ, donc on nous dit d'abord à la synagogue, donc là où il y avait les juifs, il était juif Paul, hein, ne l'oublions pas, et puis sur la place publique, eh bien les philosophes s'intéressent à lui, discutent avec lui, lui posent des questions. Et on nous dit qu'ils sont intéressés par Jésus et la résurrection. Alors là, il y a quelque chose d'assez amusant parce qu'ils prennent ce mot de résurrection, donc ce mot lui-même, c'est Anastasis en grec, ils prennent ça pour une divinité étrangère, sans percuter sur le sens, en fait, du mot. On emmène Paul à l'aéropage. C'était un lieu ouvert dans la ville. C'était autrefois un tribunal du temps de Socrate. Et à l'époque de Paul, c'est une sorte de conseil religieux et universitaire qui pouvait enregistrer et cataloguer les doctrines nouvelles. Cette marche d'approche se fait sans hostilité, mais avec curiosité. Une curiosité qui nourrit un certain savoir. Et cela alimente l'intelligence de l'esprit et le plaisir qui en ressort. Paul a donc une magnifique tribune pour parler du Dieu révélé par Jésus-Christ, cet homme qui bouleverse le monde. Il essaye d'aborder le sujet par un angle qui puisse être compris par ses auditeurs. Il parle de ce qui les préoccupe, qui les occupe, et en se promenant dans la ville, il a trouvé dans ce trop-plein de temples une stèle portant la mention « Ô Dieu inconnu ». Et en fait, dans les villes grecques, il était courant de dédier des autels aux dieux inconnus au pluriel. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas prendre le risque de subir la colère de divinités qui auraient été oubliées dans leur panthéon. Mais Paul exploite cette dédicace et dit « Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. » Et Paul commence par le Dieu créateur, pour montrer à quel point la création dans laquelle nous vivons et dont nous faisons partie est universelle, mais échappe aussi à notre compréhension. Et il cite le poète Aratos, « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Alors, quand je parlais avec mon jeune artiste, il me concédait que s'il devait donner une définition de Dieu, il dirait qu'il est la réponse au pourquoi du pourquoi. Pourquoi le Big Bang? Pourquoi un oiseau a des ailes? Etc. Il a des ailes pour voler, mais pourquoi? Donc voilà, c'est ce lieu finalement où on ne peut pas répondre parce qu'on ne sait pas. Là, il mettrait bien la définition de Dieu. Et Paul continue et dit « Dieu a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant lui qui, en réalité, n'est pas loin de nous. » Alors encore une fois, pour moi, cette phrase est d'une actualité incroyable. Tellement de gens sont en recherche et tâtonnent sans vraiment savoir ce qu'elles vont y trouver, alors que Dieu accompagne ces recherches de son amour inconditionnel. Il est là, tout près, mais souvent, on ne le sait pas. Après la création, l'apôtre parle du choix d'un homme, Jésus. Comment sait-on que Jésus a été choisi par Dieu? Paul le précise, il, donc Dieu, en a donné la garantie à tous en le ressuscitant des morts. C'est parce qu'il y a eu la résurrection des morts, que Paul a été ressuscité des morts, qu'on a compris que c'était le Fils de Dieu. Dieu l'a relevé, rendu à une vie nouvelle et éternelle. Alors, je me suis dit, finalement, atteindre l'éternité, est-ce que ce n'est pas le rêve de toute fiction? Ce texte d'aujourd'hui nous met en face du fondement de notre foi chrétienne. Au mot de résurrection d'entre les morts, les uns se moquaient et d'autres déclarèrent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » On pourrait dire aujourd'hui « cause toujours ». Face à leur théorie, Paul, en fait, décale la discussion. Et au lieu de théorie, il propose de la vie. Il parle de la vie, de la mort et de la vie. Finalement, quand on regarde comment Jésus s'y est pris, il ne passait pas son temps à des discussions dogmatiques. Par exemple, il ne discutait pas sur le bien fondé du sabbat, non. Il a guéri le jour du sabbat, ce qui a montré ce que pour lui signifiait le sabbat. Et il a pu dire « le sabbat est pour l'homme ». Et non l'homme pour le sabbat. Jésus a apporté de la vie, de la plénitude de vie, et pas des idées. Il nous a montré ce qu'est l'humanité véritable en rencontrant les autres qui venaient à lui, des hommes, des enfants, des femmes, des religieux, des non-religieux, des étrangers, des juifs. Et à chaque fois, Jésus a écouté, il a guéri, il a regardé, il a pardonné. À chaque fois, de façon personnelle, adaptée aux besoins de chacun et chacune. Il n'a pas fait de grandes théories sur comment guérir. À chaque fois, c'était différent. Par une parole, ou non, par un geste, ou non. Et quand il faisait un geste, c'était jamais le même. C'est dans la rencontre avec l'autre que Jésus se laisse inspirer. Alors bien sûr, nous pouvons réfléchir avec d'autres dans nos discussions sur qui est Dieu. Mais une chose est centrale. Et souvent, les interlocuteurs sont un peu déstabilisés quand même. C'est quand on leur parle d'un Dieu vivant. Ça sort des théories intellectuelles. Un Dieu vivant qui fait vivre. Un Dieu qui appelle. Un Dieu qui s'incarne en un homme pour nous faire entrer dans une espérance qui dépasse la mort. Et quand on aborde la question de la mort, on ne peut plus tricher. On y est tous confrontés. Mais ça, c'était inaudible pour les Athéniens. Et c'est inaudible pour beaucoup de nos contemporains. Introduire la résurrection des morts, c'est nous mettre en face d'une dimension que nous ne connaissons pas. C'est briser le règne du temps et du lieu qui fondent notre humanité. Et comme l'humain est incarné dans un temps donné et un espace donné, cela devient difficile, voire impossible, de le concevoir avec nos mots, par notre pensée. Concevoir la résurrection, c'est juste à recevoir, à vivre dans notre expérience de foi de tous les jours. Et en parler de manière décalée. Je peux dire par exemple à mon interlocuteur que je ne crois pas en un livre révélé, mais je crois en un livre inspiré, c'est-à-dire il est passé par des êtres humains qui se sont laissés inspirer dans la vie où ils étaient, dans la communauté où ils étaient. Je ne crois pas en un destin tout tracé, mais à une vie qui peut toujours se laisser guider, inspirer, relever. La révélation de la foi chrétienne est un homme vivant. Alors la force qui l'a rendu vivant est là, aujourd'hui, dans nos vies. On l'appelle l'Esprit Saint. C'est cet Esprit qui m'a appelé à devenir pasteur. C'est cette force d'amour manifestée par Jésus-Christ qui vient à la rencontre de chacun et de chacune. C'est cet esprit qui rend nos relations pleines et vivantes. Alors oui, Paul a essayé en son temps de discuter avec celles et ceux qu'il rencontrait, et nous aussi. Et je pense, vous avez beaucoup plus l'occasion que moi, sans doute, de discuter avec des gens qui vont vous dire « je ne crois pas en Dieu ». Alors, nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme ou pour convaincre l'autre à tout prix, mais pour dire comment ça me fait vivre. Comment ça s'incarne en moi? Comment cette force vivante de la résurrection me fait vivre moi? Comment cette relation à Dieu peut devenir vivante dans la prière, dans tous les signes qu'il m'envoie? Et puis, je peux avoir confiance. Parce que des fois, je n'ose pas. Quand on me dit, non mais de toute façon, tout ça, c'est que des histoires, la foi chrétienne va disparaître. Parler de la résurrection, parler de ma foi vivante, c'est savoir que le Saint-Esprit habite lui-même les cœurs, et il le fait depuis 2000 ans et plus, et il le fera bien après nous. Donc continuons à témoigner. Oui, parce que Dieu a besoin de nous comme collaborateurs, parce que si nous ne parlons pas, personne ne le fera à notre place. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Jésus-Christ est à nos côtés. Il est vraiment ressuscité et vivant. Amen.